Midi 1. Mariam, matin famille.
Allez, je suis heureuse de vous accompagner. Vous êtes toujours très nombreux à être fidèles à ce rendez-vous. Merci à vous. Nous sommes ensemble également en direct sur Medien.com. Alors, je l'annonçais en tout début d'émission ce matin. On parle également et on essaye, eh bien, de comprendre cette jalousie maladive. Elle est considérée comme étant un véritable trouble comportemental. Et comme toutes les angoisses, elle peut entraîner des troubles du sommeil, des troubles du comportement ou encore d'alimentation. Alors pour en parler, pour essayer d'y voir plus clair ce matin, il est avec nous et on le rejoint donc à Casablanca en direct, docteur Othmane Lorabi. Bonjour docteur.
Bonjour Mariam, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de l'antenne. Et je les salue très chaleureusement et je les remercie pour leur fidélité.
Merci beaucoup, ils sont toujours très très fidèles à être donc au rendez-vous comme tous les jeudis matins. Vous êtes spécialiste en psychologie. Vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Alors d'abord, je le disais donc, on parle de cette jalousie maladive. Comment peut-on la définir et surtout, est-ce qu'il en existe plusieurs formes, docteur Lorabi?
Alors, la jalousie maladive n'existe pas comme diagnostic à part. Hein. Vous le disiez, c'est quelque chose que l'on retrouve plutôt comme un trouble, donc plutôt comme un symptôme qui va s'intégrer dans plusieurs choses. Et pour la définir, bon, la jalousie, je pense qu'on peut la définir comme étant la peur de perdre l'être aimé. Et maladive, ça renvoie à la dimension exagérée, intense et fréquente hein, de l'apparition hein, de cette émotion, puisque la jalousie est un sentiment d'émotion, enfin c'est une émotion qui va être un mélange de peur, de tristesse, de désespoir, et qui va aussi entraîner toujours dans le cadre de sa définition, des réactions également exagérées qui vont être plutôt caractérisées par de l'agressivité et par peut-être quelquefois même un semblant d'autoritarisme, des choses comme ça. Donc voilà ce que c'est la jalousie exagérée. Pour résumer, la peur de perdre, la peur exagérée de perdre l'être aimé qui va se manifester par des comportements d'agressivité, des disputes fréquentes, ce genre de choses. Alors oui, ça peut s'intégrer dans beaucoup de choses. Ce n'est pas une maladie au sens strict, je le disais. Ça peut s'intégrer dans des troubles de la personnalité particuliers. Ça peut s'intégrer dans le cadre d'authentiques troubles mentaux qui peuvent se manifester par un délire, parce que cette jalousie maladive peut être réellement délirante, c'est-à-dire sans aucun rapport avec la réalité, avec des interprétations, des hallucinations, ce genre de choses. Donc ça peut parfaitement s'intégrer là-dedans. Tout comme, quelquefois, dans certaines formes de troubles anxieux ou de troubles dépressifs, on peut retrouver ces dimensions qui soient un peu plus marquées. Alors, juste une petite parenthèse, oui. Être un peu jaloux, entre guillemets, oui. Un peu jaloux, c'est normal.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on parle d'émotions humaines, là. On n'est pas en train de parler, la jalousie au sens strict du terme, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est vraiment dans son intensité. Et pourquoi être un peu jaloux, c'est normal? Bon, parce qu'il y a une part un petit peu instinctive de nous qui parle, parce que quand on parle de peur de perdre l'être aimé, qu'est-ce que symbolise cet être pour nous? Qu'est-ce que symbolise son amour pour nous? Enfin, il y a plusieurs considérations, ce qui fait que quand on est face à certaines situations, on se sent menacé par la perte de cette personne et la conséquence de cette perte sur notre ego, sur beaucoup de choses. Donc, mais bon, normalement, quand on est dans des processus cognitifs normaux qui sont pas impactés par des troubles mentaux, eh ben, on va pouvoir relativiser parce qu'il y a la notion de confiance, il y a la notion aussi qu'on ne contrôle pas les émotions de son conjoint ou de l'être aimé. Ça aussi, c'est une dimension très importante parce que assez souvent, dans les jalousies maladives, on va retrouver une dimension d'hyper-contrôle où on va essayer de contrôler l'environnement de la personne aimée, les gens qu'elle fréquente, il ou elle fréquente, ses horaires, ses allées et venues, ce genre de choses. Voilà un petit peu la grande image pour définir et comprendre aussi ce que c'est la jalousie maladive.
D'accord. Alors, docteur Othman Lorabi, ces causes, est-ce qu'on peut finalement parler de causes quand on parle de jalousie maladive?
Oui, alors quand on est dans le cadre de quelque chose qui est plutôt constitutionnel, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours été comme ça et qui est toujours comme ça, c'est-à-dire on n'est pas dans le cadre d'un trouble aigu, on va retrouver assez souvent des carences éducatives, des négligences côté parental, dans le sens où un parent ou qui n'est pas assez assez bienveillant en termes de paroles, en termes de gestes, d'affection principalement, parce que on parle toujours, il y a la notion d'amour, je le disais, hein, dans la jalousie maladive, il y a aussi les expériences individuelles, parce que, et surtout les premières expériences de vie, quand on est face à une personne que l'on aime, hein, avec un mouvement affectif très important, en fonction de comment ça se passe, de qu'est-ce qui se passe, et comment nous on le vit de l'intérieur, et comment on l'interprète, ça peut aussi nous fragiliser pour justement être tout le temps en proie à cette jalousie exagérée. Ça, bien sûr, ça nous renvoie à la dimension d'immaturité affective, parce que, comme je le disais, quand on est plutôt mature dans le cadre des relations interpersonnelles, notamment sentimentales, ben on comprend que l'amour, c'est pas volontaire, que si quelqu'un ne m'aime plus, ce n'est pas forcément de ma faute, ce genre de choses, hein, mais ce qui suggère une grande expérience de la vie aussi. Et malheureusement, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école ni ailleurs. Et il y a aussi, bien sûr, une notion très importante, ce sont les personnes qui auront vécu un véritable traumatisme affectif, parce que moi c'est comme ça que je considère les tromperies, les infidélités, c'est-à-dire les histoires extra-conjugales, où voilà, il va y avoir un fait avéré d'infidélité. Assez souvent c'est un traumatisme, en tout cas c'est vécu en tant que tel, et ça peut générer justement par la suite une peur maladive, hein, que ça se reproduise, donc ce qui va se traduire par une jalousie maladive. À côté de ça, il y a des entités bien sûr psychiatriques qu'il convient de nommer et dont on a déjà parlé, c'est notamment par exemple le délire paranoïaque, ça qui est quelque chose d'un peu plus fréquent chez l'homme d'âge mûr, où il y a une construction de quelque chose de totalement délirant, mais qui va être autour de l'infidélité de la conjointe, avec beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de, au niveau du couple, au niveau aussi de la personne qui a cette jalousie maladive. Et il y a aussi, bon, je dirais toutes les pathologies mentales qui peuvent entraîner un délire, parce que le délire peut se déguiser justement en jalousie maladive.
Justement, ce délire, ça fait partie des risques, puisqu'on ne peut pas ne pas s'attarder finalement sur les risques. Est-ce qu'on met le délire donc dans cette case-là, docteur Laurent?
C'est un vrai risque. C'est un risque évolutif, c'est-à-dire que oui, à partir du moment où il y a une jalousie maladie, alors bien sûr, on ne va pas se baser juste sur la présence d'un seul symptôme, mais si, par exemple, il y a d'autres symptômes qui indiquent une petite désorganisation de la pensée, des petites choses comme ça, oui, le délire dans sa dangerosité, c'est-à-dire là, parce que je parle de la réaction. Quand quelqu'un a peur de perdre l'être aimé, la peur, c'est ce qui justifie l'agressivité. Hein. Vous savez, on est toujours agressif uniquement quand on a peur. Et autant cette peur est élevée, autant l'agressivité peut être élevée, avec quelquefois des passages à l'acte teintés par une dimension de désespoir, ce genre de choses. Donc oui, heureusement, c'est extrêmement rare comme évolution, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on est face à ce genre de situation.
D'accord. D'autres risques auxquels vous penserez éventuellement, docteur Lorabi?
Quand on n'est pas dans le cadre de la pathologie mentale, au sens strict, comme on le disait, donc par rapport au délire, le vrai risque, c'est la souffrance individuelle de la personne. Parce que quand on est dans ce genre de fonctionnement, par exemple, dans le cadre d'un trouble de la personnalité, eh ben, on se retrouve bien souvent tout seul. Hein, c'est-à-dire, on va souffrir de solitude parce que justement, sans le vouloir, on va être une personne toxique, hein, pour les personnes que l'on peut fréquenter, bien qu'on soit pas mal intentionné. Hein. C'est très important de garder en tête cette histoire, parce que assez souvent, quand on parle de personnalité toxique ou de relation toxique, on a tendance à imaginer que c'est les autres, mais on peut aussi être nous, je dirais, du mauvais côté. Pour moi, c'est le vrai risque. Hein. C'est un risque qui va être relationnel, familial, social, quelquefois aussi professionnel, hein, quand cette jalousie maladive est aussi émue par des enjeux professionnels d'appréciation, de valorisation. En tout cas, voilà, il y a un risque de souffrance qui est absolument non négligeable et qui justifie, à mon sens, de toujours être pris en charge.
Très bien. Alors justement, cette prise en charge, on y arrive. Comment ça se passe ? Comment faire face donc à cette jalousie maladive et comment être accompagné ? Quel traitement, j'allais dire, docteur Osman Lorabi ?
Quand on est dans le cadre de maladies mentales, on parlait de délire paranoïaque, etc. Bien sûr, c'est très important qu'il y ait une prise en charge médicale sérieuse, complète, avec des médications adaptées aux troubles psychiatriques sous-jacents. C'est-à-dire que à ce moment-là, la jalousie maladive, c'est vraiment juste un symptôme à la limite mineur, ou peut-être un symptôme d'appel. Ok. Pour les autres cas de figure, où principalement on est dans le cadre d'un trouble de la personnalité, ou comment on s'est construit, qu'est-ce qu'on a vécu, etc. Bien sûr, il peut y avoir besoin d'une aide médicamenteuse en fonction des comorbidités. Quand on parle de troubles alimentaires, troubles du sommeil, etc., ce sont souvent des choses qui vont s'inscrire soit dans une dépression, soit dans un trouble anxieux réactionnel, ce genre de choses. Donc il faut une prise en charge adaptée aux comorbidités, c'est-à-dire les maladies qui vont apparaître à côté de ce fonctionnement de jalousie maladive. Mais ce qui est le plus important, c'est réellement la psychothérapie. Et il faut savoir que c'est en général des psychothérapies qui sont assez longues. Pourquoi ? Parce que elles vont le plus souvent aussi s'atteler à un petit peu encadrer les relations qu'il peut y avoir dans le cadre de la vie de tous les jours pour pouvoir mieux les apprécier, plus prendre conscience, je dirais, aussi de nos déficits, nous, d'amour propre, hein, d'ego ou nos fragilités narcissiques, et travailler sur cette confiance, tester les relations d'une manière saine pour voir que effectivement ce n'est pas parce que on va lâcher un peu du contrôle que forcément on va être mis face à une infidélité, ce genre de choses. Donc l'aspect psychothérapie est très important et assez souvent, comme je le disais, pour pas dire toujours, il y a besoin d'années, hein, quand on parle de troubles de la personnalité.
Et a besoin d'années, et justement, vos conseils sont précieux. Quels seraient, pour terminer, vos conseils à toutes ces personnes qui se reconnaissent dans tout ce qu'on se dit ce matin et qui aimeraient s'en sortir ? Docteur Lorabi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie.
Il ne faut pas hésiter à prendre la tâche. Si c'est quelque chose de chronique, hein, où on se retrouve, on se retrouve dans ce fonctionnement depuis des années, des dizaines d'années, oui, moi je pense que c'est important à ce moment-là d'aller solliciter un professionnel de la santé, psychologue ou autre, pour essayer de voir est-ce que c'est possible d'initier une psychothérapie en vue du changement. Alors que si on se reconnaît dans ce fonctionnement juste depuis peu, moi mon conseil, c'est très important, et c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui sont liées par un sentiment fort d'amour, la confiance, c'est une décision. Hein, on ne décide pas d'avoir des preuves que la personne est digne de confiance, on décide de le lui accorder. Ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu lâcher prise, hein, et perte de contrôle volontaire, parce qu'il n'y a pas réellement de contrôle là-dessus. Oui. Et c'est ça mon conseil. C'est vraiment, il faut se fier aux personnes pour ne pas tomber dans cet engrenage qui est pourvoyeur d'énormes difficultés relationnelles.
Alors, si on en est conscient, c'est que c'est déjà bon, j'ai envie de dire, docteur Lorabi.
Oui. Ben, quand je parlais de troubles de la personnalité, à moins qu'on soit extrêmement jeune, on s'en rend compte assez rapidement qu'on est tout le temps dans la reproduction des mêmes choses. On peut aussi se rendre compte qu'on est dans une souffrance chronique qui évolue depuis des années. C'est-à-dire là, quand je parle de trouble de la personnalité, on peut faire le diagnostic entre guillemets nous-mêmes. C'est vrai que quand on parle de troubles délirants, non, la personne est absolument convaincue. Et ça, c'est autre chose. Hein, et donc, elle ne repère pas qu'elle est malade. Et justement, la psychothérapie, juste justement indiquer dans les troubles de la personnalité ou les choses qui y ressemblent, parce que justement les personnes vont être mûres par cette volonté d'arriver à dépasser cette souffrance.
Parfait, docteur Hartmann. Laura Bi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes également secrétaire générale de l'association marocaine de psychiatrie, dit psychodynamique à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur Medi 1. Et c'est un entretien réécoutable, évidemment, à la demande sur notre site medi1.com.